Bien, rebonjour. J'espère que vous pourrez entendre et surtout comprendre ce que j'essaie de vous dire dans ces quelques minutes concernant la biographie de Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est mieux maintenant? Je vais essayer de vous dire brièvement quelques éléments, vous présenter une brève biographie de cette grande sainte, confidente et messagère du cœur de Jésus. Alors, concernant l'époque où il a vécu, là vous le savez, je pense, pour certains ce sera un rappel, pour d'autres peut-être quelques découvertes. Nous sommes au XVIIe siècle, qui est le siècle de Louis XIV. La France sort meurtrie des guerres de religion et se débat avec une hérésie qu'on appelle le jansénisme, qui peu à peu blesse beaucoup les chrétiens, qui vivent plus de la crainte que d'amour pour Dieu. Alors, en quelques mots, sur cette hérésie qui va nous aider sûrement à mieux comprendre en fait le message du cœur de Jésus ici et son importance. Il s'agit de penser pour ces gens qui suivaient l'enseignement de Jansénius qu'en fait l'homme, selon Jansénius, ne peut résister à l'action salutaire de la grâce divine. S'il se perd, c'est donc qu'il n'a pas reçu la grâce. Par conséquent, si des hommes ne se tournent pas vers Dieu, c'est parce que la grâce leur a manqué. Et donc, le Christ n'est pas mort pour eux. Dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la confiance en la miséricorde et à l'amour de Dieu disparaît, ou en tout cas s'amoindrit. Devant les rigueurs attribuées à la justice divine, beaucoup vont s'éloigner des autels, de la messe, de l'Eucharistie. Donc, c'est ce climat d'aridité religieuse, en fait, que Jésus choisit de venir dévoiler son cœur à une religieuse bourguignonne, cette sainte, Marguerite Marie, pour justement donner une réponse de sa part directement à cette hérésie-là. Rappeler tout simplement son amour et sa miséricorde divine, qui sont infinies et qui sont offertes à tous sans exception. Et on verra tout à l'heure les paroles même de Jésus sur ce point. Donc voilà un peu le contexte. Après, je ne vais pas vous parler plus de la situation politique, économique du pays de l'époque, qui n'était pas extraordinaire. Mais en même temps, dans ce siècle, 17e, qu'on appelle aussi le siècle de la spiritualité française, de l'école française de spiritualité, il y a aussi beaucoup de personnes qui, justement, veulent travailler à la réforme de l'Église entière suite au Concile de Trente. Et en même temps, on voit naître beaucoup d'initiatives, en fait, des fondations nouvelles, comme ce sera le cas donc, de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie, qui est fondée en 1610 à Annecy, et dont les fondateurs, l'évêque François de Sales et Jeanne-Françoise de Chantal écrivent « Notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et de Marie. Le Sauveur, en mourant, nous a enfantés par l'ouverture de son cœur. » On a fêté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, justement, un grand jubilé depuis la création de la fondation de l'Ordre de la Visitation. Et l'emblème de cet ordre, c'était déjà un cœur surmonté d'une croix, entouré d'une couronne d'épines, est percée de deux flèches gravées des noms de Jésus et Marie. Comme quoi. C'est pour dire qu'en fait, les révélations que Marguerite Marie aura quelques années après, eh bien, ce n'est qu'un rappel, en fait, d'une vérité évangélique. Hein. Depuis que Jésus est venu, eh bien, il a bien dit, hein, Dieu a tant aimé les hommes. Et bien voilà, l'image de ce cœur nous rappelle cela, tout simplement. Et donc, les sœurs de la Visitation ont vécu dans cette spiritualité-là, où Saint François et Jeanne de Chantal voulaient leur imprimer cet amour hein, envers le Seigneur, déjà. Alors, cet ordre ouvre un couvent ici, en 1626. Les visitandines donc s'installent à Palais-Monial à la demande des pères jésuites qui y résidaient déjà. Alors, concernant la biographie de Sainte Marguerite Marie, je vous propose de la parcourir en quatre étapes. Trois périodes vont concerner sa propre vie, et puis après, la quatrième, ça va être qu'est-ce qui se passe après sa mort. Bon. Donc, la première période concerne son enfance, sa jeunesse aussi, jusqu'à son entrée à la Visitation. Alors, Marguerite Marie est née le 22 juillet 1647 à Verovre, un village qui est proche de Charolles, entre Mâcon et Palais-Monial, que vous pouvez visiter d'ailleurs. Hein, à droite, vous voyez déjà des gens hein, qui sont en train de monter dans une des chambres de la maison, qu'on peut visiter encore aujourd'hui. Son père est notaire royal, et la famille entière est profondément chrétienne. Marguerite Marie est la cinquième d'une famille de 7 enfants. À l'âge de 5 ans, au cours d'un séjour chez sa marraine, Madame Fautrière, au château de Courcheval, Marguerite fait une première offrande de sa vie au Seigneur. Et il lui dit pendant une messe, au moment de l'élévation, hein, entre les deux élévations, comme on dit, hein, du corps et du sang du Christ, il dit, « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » 5 ans, hein. Bon. Évidemment, elle dira plus tard qu'elle n'a pas compris le sens de ces paroles, mais elle va les prononcer, probablement parce qu'elle avait entendu des conversations sur la vie religieuse, une fille de sa marraine étant religieuse à la Visitation déjà de Palais-Monial. Alors, il est clair que cette offrande n'était pas un vrai vœu, hein, au sens strict du mot, parce qu'elle n'est pas devenue religieuse à 5 ans, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si les sœurs accepteraient quelqu'un à l'âge de 5 ans. Peut-être 25, 30, 40, vous pouvez y penser. Cependant, cette démarche hein, de Marguerite Marie hein, va rester gravée dans sa mémoire. Et lorsque, un peu plus tard, hein, par obéissance, elle va rédiger sa vie par elle-même, c'était le premier souvenir de son enfance qu'on y trouve. En fait, c'est le début d'un grand amour pour le Seigneur. Et elle écrit, « Ô mon unique amour, combien vous suis-je redevable de m'avoir prévenu dès ma plus tendre jeunesse, vous rendant le maître et le possesseur de mon cœur, quoique vous connaissiez bien les résistances qu'il vous ferait. » Ah ça, c'était son problème depuis toujours, hein. Mais on verra cela peut-être dans les textes tout à l'heure, parce que là je ne vais pas vous parler tellement de la spiritualité de Marguerite Marie, mais simplement voilà de quelques moments très importants qui ont marqué sa vie. Alors voilà quelques images d'aujourd'hui, hein, de ce château de Courcheval qu'on ne peut pas tellement visiter parce que c'est une propriété privée maintenant, mais ça donne envie d'y aller quand même, hein. Oui. Alors il y a une petite chapelle là où Marguerite Marie passait beaucoup de temps en prière, c'était une âme vraiment très pieuse, amoureuse de Jésus, vous comprenez. Alors, son père va mourir en 1655, elle a 8 ans, en décembre, et à ce moment-là, elle est confiée aux Clarisses urbanistes à Charolles, dans une pension. Elle va faire sa première communion là-bas, et on voit bien dans ses écrits, dans ses témoignages, que toute sa vie, en fait, sera marquée par ce sens profond du mystère eucharistique, de la présence réelle de Jésus dans l'hostie. Et aussi, bien sûr, l'exemple des sœurs, hein, là-bas où elle était, vont la marquer profondément. Après un séjour de 2 ans, elle va quitter ce pensionnat, car elle tombe gravement malade pendant 4 ans, ou même plus. On ne sait pas très bien, mais en tout cas, on sait qu'elle était alitée durant 4 ans, une sorte de paralysie, elle ne pouvait pas marcher. Et alors, elle va faire une prière à la Vierge Marie en disant, si tu me guéris, je vais entrer dans un monastère qui te consacre, qui va porter ton nom. Comme ça, si simplement que ça, vous voyez. Eh bien, la Vierge Marie l'a prise au mot, hein, et l'a guérie. Et déjà, à l'époque, en reconnaissance, elle va rajouter le nom de Marie à celui de Marguerite, parce qu'elle s'appelait Marguerite seulement. Et au moment de la confirmation, elle se dit, comme un geste de remerciement, hein, envers Marie, je vais lui rajouter son prénom au mien. Eh bien, quelques années après, elle va faire une expérience très profonde, en fait, très mystérieuse aussi, au moment d'un bal, en fait, dans son adolescence, où elle s'amuse, elle se divertit, et puis elle a la vision de Jésus qui lui apparaît sous les traits de Ecce Homo, hein, en souffrance, en lui disant, en bref, tu m'as oublié. J'étais en train de t'amuser là, mais tu m'as promis de m'aimer pour toujours. Et là, tu fais quoi là? Ben, moi, je t'ai pas oublié. Hein. Alors, donc, du coup, vous comprenez bien qu'elle a légèrement un choc. Hein. Et puis, elle va quitter son bal et tout, et elle se dit vraiment, il faut quand même que je sois fidèle à cette promesse, hein, que j'ai faite au Seigneur, hein, de me donner à lui, en fait, et de lui rester fidèle. Et du coup, elle va commencer à s'intéresser de plus en plus à la vie consacrée. Et quelques années après, donc, voilà, on va passer à la deuxième étape, là. Elle avait déjà maintenant 24 ans, en 1671. Eh bien, elle vient visiter le monastère de la Visitation et dès qu'elle entre dedans, elle entend une voix intérieure qui lui dit « C'est ici que je te veux ». Et c'était donc un mois après, à peu près, le 20 juin 1671, voilà, qu'elle va être accueillie dans ce monastère, ici à Parlémonial, et le monastère porte le nom de Sainte Marie. Comme quoi la Vierge Marie lui donnait des signes très très précis, très concrets, qui l'a accompagné d'ailleurs toute sa vie. Je me disais où était ma deuxième feuille. Alors, en étant admise dans ce monastère, elle ressent une joie extraordinaire. Et quelques semaines après, elle va prendre l'habit le 25 août. Et c'est à ce moment-là qu'en fait Jésus lui fait comprendre que c'est le temps des fiançailles qui va commencer. Et il va lui donner plusieurs preuves sensibles de son amour, qui la mettent souvent hors d'elle-même. Mais ces expériences mystiques qu'elle avait tout le temps, elle pensait même que toutes les autres sœurs parlaient à Jésus comme elle le faisait, d'une manière toute simple, comme ça, hein, de personne à personne. Elle était étonnée que les autres sœurs n'avaient pas la même expérience. Du coup, on lui fait comprendre qu'en fait, toute cette simplicité, mais en fait, des choses parfois sensibles, hein, des preuves sensibles comme ça de l'amour de Jésus, n'étaient pas tout à fait en accord avec l'esprit de la Visitation. Et les supérieurs commence à craindre l'illusion, la tromperie. Et Marguerite Marie elle-même se plaint au Seigneur, je me permets de vous lire simplement ceci. Hélas, mon Seigneur, vous serez donc la cause que l'on me renverra. Et vous, tu me fais des confidences et moi je suis tout contente. Et puis, mais en fait, les sœurs ne sont pas contentes. Donc elles veulent me mettre dehors. Donc, mais c'est ta faute, Seigneur, c'est quoi ça? Enfin, pardon de, voilà, de traduire cela, mais c'est comme ça que je comprends. Hein. Alors Jésus lui répond ceci. Dis à ta supérieure qu'il n'y a rien à craindre pour te recevoir, que je réponds pour toi, et que si elle me trouve solvable, je serai ta caution. Désormais, j'ajusterai mes grâces à l'esprit de ta règle. C'est bien de retenir ça. Hein. J'ajusterai mes grâces à l'esprit de ta règle, à la volonté de tes supérieurs et à ta faiblesse. Je suis content que tu préfères la volonté de tes supérieurs à la mienne. C'est Jésus qui parle. Hein. Il est drôle, le Seigneur. Hein. Je suis content que tu préfères la volonté de tes supérieurs à la mienne lorsqu'elles te défendront de faire ce que je t'aurais ordonné. Laisse-les faire tout ce qu'elles voudront de toi. Je saurais bien trouver le moyen de faire réussir mes desseins, même par des moyens qui y semblent opposés et contraires. Je ne me réserve que la conduite de ton intérieur et particulièrement de ton cœur. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, en fait, à travers cela, Marguerite Marie reçoit comme une confirmation un peu de ce qu'elle sentait au début quand elle a voulu entrer au monastère. Elle disait, je vais obéir, là, parce que comme j'ai peur de me tromper, je vais faire confiance à mes supérieurs. Donc là, je suis sûr que je ne vais pas me tromper. Donc, elle choisit une voie, on dirait, simple. Mais enfin, aujourd'hui, la voie de l'obéissance n'est pas la plus simple pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas? Et la soumission aux autorités. Et bien voilà, elle vit ça. Mais Jésus va au-delà même, vous voyez. Même dans les absurdités parfois de décisions, il dit, c'est pas grave, hein. Je suis là quand même. Bon. Alors, cette assurance de la part de Jésus, notamment cette insistance sur la valeur de l'obéissance, vont permettre donc à Marguerite Marie d'être admise quand même à la profession religieuse, le 6 novembre 1672. Elle va se préparer par une retraite de 6 jours, sans pourtant interrompre son travail. Alors ça, c'était un peu bizarre. Hein. Et elle est obligée de garder l'annexe et l'annon du monastère, ce qui l'oblige souvent à courir pour empêcher ses animaux indociles de dévaster le jardin. Que d'ailleurs, on verra même dans la nuit un peu comme ça. Hein. Ou peut-être ceux qui sont déjà venus dans la journée, mais pour ça, il faut venir aussi au fait de Sacré-Cœur. Hein, pour comme ça, vous allez voir le jardin dans la journée. Il n'est quand même pas petit et il y a beaucoup de... Enfin, il y a un potager, là. Elle passait sa journée à courir, quoi. Et ça s'appelait préparation à la profession religieuse, vous voyez. Un bosquet de noisetiers au milieu du jardin. Je ne sais pas si on va y passer ce soir. Je ne sais pas, on va voir. En fait, c'est une surprise, non? Bon. Eh bien, ce bosquet-là est pieusement entretenu comme un lieu de grâce. Jésus donne à cet endroit, à cette novice, des lumières particulières sur le mystère de sa passion. Et donc, je ne vais pas entrer je ne vais pas vous donner des citations maintenant, mais voilà, Marguerite Marie a la conscience de la valeur de l'engagement qu'elle avait prise à cette profession solennelle, religieuse, pardon. Et comme le baptême, cette offrande fait d'elle une créature nouvelle, la fait vivre d'une vie divinisée par la présence de Jésus. Et elle comprend que Jésus veut habiter le cœur de son être, le cœur humain, en fait, de chacun d'entre nous, en fait. Et donc, elle veut aussi devenir la demeure des cœurs. Il s'agit de ne faire qu'un seul esprit, un seul cœur avec le Seigneur. Et en cette retraite de préparation, il est vrai, Jésus ne parle pas encore de son cœur à lui, mais seulement de la plaie de son côté. Donc, la révélation de son cœur brûlant d'amour ne va pas tarder, on va voir tout de suite. Donc, le jour de la profession, une alliance est scellée entre le Seigneur et celle qui devient son épouse. qu'il a fait tellement attirée par Jésus que tous les moments libres, elle va commencer à les passer devant le Saint-Sacrement. Dans la chapelle, hein. Devant le tabernacle. Parfois, le Saint-Sacrement n'était pas exposé, mais elle venait se reposer, en fait, devant Jésus, quoi. Alors, je vais maintenant vous passer brièvement, justement, ces expériences extraordinaires, en fait, hein, qu'elle a pu vivre à travers les trois grandes apparitions parmi les nombreuses visions et expériences mystiques. Hein, on compte à peu près 80, entre 70 et 80, voilà, expériences voilà, mystérieuses dans cette rencontre avec le Seigneur. Mais voilà, il y en a trois qu'on a retenues, que vous devez connaître, mais je ne vais pas les approfondir, je vais simplement, voilà, les citer comme ça, parce que ça fait partie justement de ce moment essentiel, central en fait, de sa vie, mais aussi du témoignage qu'elle nous laisse en fait. Donc, la première grande apparition, 27 décembre, c'était la fête de Saint Jean l'Évangéliste, 1673. Elle voit le cœur de Jésus, qui l'invite à reposer fort longuement, dit-elle, sous sa divine poitrine, fort longuement. On a essayé de savoir combien ça a été, peut-être 3 heures, hein, plus ou plus. Hein. Bon, je ne sais pas si elle s'est vraiment endormie parce qu'elle devait être fatiguée, mais elle dit, bah, c'était mon temps de loisir. Alors, elle passe un temps long en se reposant sur la poitrine de Jésus, le sein de Jésus, qui nous renvoie au sein du Père, en fait. Hein. Et c'est là, elle dit, il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur. C'était comme une extase, en fait, qu'elle a vécue. Une expérience sans parole, dans un premier temps. Et c'est ensuite que Jésus prend la parole et lui dit ceci: mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les réponde par ton moyen. Alors, vous avez peut-être entendu les explications que notre cher recteur Benoît Guédas nous donne sur ces paroles, qu'il est écrit aussi, il écrit aussi dans son livre. Ça a été fait dans la publicité tout à l'heure, hein, ça a été présenté. Oh, mais Dél. Ah, mais tu n'étais pas là, mon frère. Ben oui, ben voilà, ton livre a été présenté. Non, mais c'est vraiment important d'y prendre le temps de méditer sur ces paroles. C'est en fait la clé de compréhension de tout le message que Jésus lui donnera. Alors voilà, parmi d'autres, entre autres visions, elle a eu une de la Trinité, sous la forme de trois jeunes hommes vêtus de blanc, tout resplendissant de lumière, de même âge et grand de beauté. Et puis après aussi, un peu avant, hein, elle a vu aussi Saint François d'Assise, hein, que Jésus lui a donné, l'a nommé en fait protecteur, hein, son protecteur à elle. C'était un peu avant la première apparition. Et aussi, il y a un endroit dans le monastère où on peut passer parfois comme ça, qui s'appelle la cour des Séraphins. C'est là aussi qu'elle a vu le cœur de Jésus adoré par les Séraphins, qui lui disaient, bah, écoute, ben, quand tu n'as pas le temps, maintenant on le fait à ta place. Hein. Nous, on va adorer Jésus quand tu t'es occupé, quoi. Voilà. C'est pour dire qu'elle a entretenu au fond d'elle-même, voilà, cet amour qu'elle a reçu de Jésus à chaque instant de sa vie. Même quand elle faisait les poubelles, elle était en train d'adorer Jésus. Et souvent, on la trouvait, enfin, elle se mettait à genoux partout où elle était, parce qu'elle disait, Jésus est avec moi toujours, donc je vais l'adorer partout. Donc elle se mettait à genoux le plus souvent, enfin, presque tout le temps, quoi. La deuxième grande apparition est représentée, d'une manière un peu, enfin, par des artistes, hein, sur la fresque de la Visitation, telle qu'on voit aujourd'hui. Et là, elle voyait les plaies de Jésus rayonnant comme des soleils, et la source de ses flammes, dit-elle, c'était sa poitrine. Mais devant cet amour énorme, infini, Jésus se plaint, en fait. Et il dit, voilà, les hommes n'ont que des froideurs, du rebut pour tous mes empressements à le faire du bien. Et du coup, il demande à Marguerite Marie de faire réparation, de consoler son cœur, et puis aussi de prier pour ceux et celles qui ne veulent pas recevoir cet amour et lui donnent plusieurs pratiques, moyens afin de le faire, notamment de communier souvent, et là aussi il précise, hein, autant que la règle de l'institut, de la congrégation va lui permettre. Et puis aussi de passer ce moment les jeudis soirs entre 23h et minuit en pensant à son agonie, ce que nous appelons aujourd'hui l'heure sainte. Ensuite, quelques mois après, un jésuite qui s'appelle Claude Lacolombière est envoyé à Paray-le-Monial ici comme responsable du collège des jésuites, qui n'était pas très grand, mais enfin, il y avait besoin d'un responsable. Et puis, Marguerite Marie avait entendu la parole, une promesse de Jésus, dans les moments où il n'était pas comprise par ses supérieurs, par les sœurs, il disait, mais qu'est-ce qui va me comprendre, et peut-être que je me trompe encore, et tout. Et Jésus lui dit, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et parfait ami, qui va t'apprendre l'obéissance, la confiance et l'abandon. Bon, me laisser faire, quoi. Et dès que le père de la Colombière arrive et elle vient rendre visite aux sœurs, ben Marguerite Marie entend cette voix intérieure, voilà, c'est lui que je t'envoie. Et en effet, dans les entretiens qu'elle a pu avoir assez vite après, au mois de mars, c'est commencé le carême déjà de cette année-là, elle vient le voir, se confesser, au début avec une grande crainte, une méfiance, quoi. Comme elle avait en fait envers les autres confesseurs qui sont venus un peu l'encourager parfois, mais en fait ils ne sont pas tellement arrivés parce qu'ils ne se sentaient pas très compétents en fait de discerner ce qu'elle vivait, hein, ces visions-là. Mais voilà que ce père Claude Lacolombière, avec une grande finesse et un grand discernement, ben voilà, l'apaiser en fait et l'encourager à mettre toute sa confiance dans ce que Jésus lui disait, alors que lui, il n'a jamais eu de vision, en fait. Alors, dans le tableau, là, que vous voyez, il y a tout en haut trois cœurs, vous les voyez un peu. C'est ce qu'on appelle la vision des trois cœurs. C'est un moment où, pendant la communion, que Saint-Claude donnait à Sainte Marguerite Marie, elle a vu un grand cœur tout en haut et deux petits, en plus bas. Et la voix de Jésus qui disait, c'est ainsi que je veux unir ces trois cœurs en un seul. C'est-à-dire que, voilà, ton cœur à toi, Marguerite Marie, celui de Claude Lacolombière, et mon cœur, pour qu'on fasse un seul. Et Marguerite Marie comprend, ben, il voulut ainsi nous transformer dans cette union en frères et sœurs pour partager absolument tout ce que nous vivons au niveau spirituel. Quelques semaines encore après, c'était durant l'octave de la fête du Saint-Sacrement, elle a la troisième grande apparition, celle qui est peut-être la plus connue, voici ce cœur, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et à ce moment-là, Jésus demande cette instauration d'une fête universelle dédiée à son cœur comme une réparation publique de la part de l'Église, voilà, de toutes les indifférences et les sacrilèges envers son amour dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie surtout. Et un autre moment important dans sa vie, c'était le départ, en fait, de Père Claude. Après un an et demi ici, il va être envoyé en Angleterre, où il va prêcher près de la cour et de la duchesse d'York. Mais il va tomber malade aussi, il sera emprisonné, même à un moment donné, il sera banni un peu plus tard. Mais entre-temps, Marguerite Marie, elle continue à vivre sa vie, je dirais, dans le monastère, tout paisiblement. Maintenant, sans avoir cette aide à côté d'elle, hein, de celui de Claude. Mais c'est Jésus lui-même, en fait, hein, qui l'éduque, qui continue sa formation, on peut dire, et qui lui apprend, en fait, que tout vient de lui. Et c'est ainsi qu'elle va faire, donc, à un moment donné, un testament, hein, un don total de d'elle-même. Et c'est là aussi que Jésus, comme une réponse, lui offre son cœur en lui disant, tu seras l'héritière de mon cœur. Vous voyez ces phrases tout en haut de la chasse de Marguerite Marie que j'ai mis dans le tableau là. Voilà, ce grand cœur. qu'elle avait vu un peu avant. Le 15 février 1682, le père de la Colombière, après son retour, mais il va mourir malade de tuberculose ici. Et Marguerite Marie aussi va vivre quelques années après, 2 ans après, ce qu'on appelle le mariage mystique, une expérience très mystérieuse d'union totale avec le Seigneur. Elle va être nommée maîtresse des novices cette même année. Et ce qui est beau, c'est qu'elle nous raconte comment elle essayait de faire comprendre de plus en plus à ses sœurs les désirs de Jésus pour qu'il soit honoré, en fait. Et elles vont dessiner un jour, avec un crayon, hein, cette image que vous voyez là. C'est la première qu'elles ont honorée entre les novices, hein, un petit comité, le jour de Sainte Marguerite de l'époque. Hein, à l'époque, c'était le 20 juillet. Et elles se sont mises ensemble à chanter, à louer le Seigneur autant qu'elles le pouvaient, comme dit Marguerite Marie. Voilà. Ce cœur avec la croix, avec les flammes. Et là, au milieu, vous voyez écrit Caritas. En fait, ça représente la plaie du cœur de Jésus, qui est le symbole de cet amour qui jaillit en abondance. C'est une source intarissable, en fait. En 1686, le père Rollin lui demande d'écrire son autobiographie. Et puis on peut la voir, hein, les sœurs gardent cela dans leur archive. Et ceux qui ont fait des études sur son écriture ont constaté que ce n'était pas du tout une folle, quoi, hein. Au contraire. Avait un grand esprit de synthèse, une grande clarté, en fait. Alors, l'image du cœur de Jésus ensuite sera petit à petit acceptée par les autres religieuses du monastère. Et puis voilà qu'enfin, le 21 juin, pour la première fois, toutes les sœurs du monastère vont honorer dans le cœur, hein, et vont rendre hommage au cœur de Jésus. 21 juin 1686. Elle va aussi faire un vœu de grande radicalité le 31 octobre 1686, aussi la même année, un vœu de perfection. Et un peu plus tard, elle sera aussi nommée assistante de la mère supérieure. Les religieuses, les supérieures aussi comprennent que finalement, ce que Jésus lui a dit, c'était pas que pour elle seulement, mais c'était quelque chose destiné à l'Église entière. Donc du coup, elle essaye de commencer elle-même, en fait. Voilà, j'ai pas trouvé une bonne photo pour la chapelle là. Elles ont fait construire dans leur jardin la première chapelle qui est dédiée au Sacré-Cœur. Elle sera terminée et inaugurée donc le 7 septembre 1687. On peut la voir même en passant par l'extérieur du mur, en fait, hein, quand vous faites le tour du monastère. Cette chapelle est là au fond. Le 22 juillet, elle va entamer une ultime retraite pour se préparer à la mort. Et de fait, le 17 octobre, à l'âge de 43 ans, voilà, elle va rejoindre le Seigneur qu'elle a aimé toute sa vie, en fait. Alors, vous avez aussi cette histoire racontée en images, je dirais des petits statues, au diorama. Hein. Dans l'après-midi, il y aura des personnes qui pourront reparcourir tout cela d'une manière aussi visuelle, hein, un peu plus, et puis avec un son, une voix beaucoup plus agréable sûrement que la mienne maintenant. Eh bien, après la mort de Marguerite Marie, eh bien, l'Église a pris du temps pour... je dirais, approfondir, enfin, étudier, puis approuver aussi les demandes, hein, qui ont été faites, hein, pour qu'une fête soit célébrée. La première fois, cela s'est fait officiellement pour la Pologne et les archiconfréries romaines. Clément XIII a institué officiellement cette fête le 6 février 1665. La Pologne, comme quoi. Hein. Et quelques années après, enfin même un siècle presque, le bienheureux Pie IX va étendre cette fête à l'ensemble de l'Église catholique. Alors vous avez là le dôme de chez nous ici, durant des fêtes de Sacré-Cœur, fêtes qui sont célébrées dans le monde entier. Et vous avez dans toutes les églises une image, une statue, un vitrail, où il y a le cœur de Jésus, et souvent devant Sainte Marguerite Marie, présentée à peu près comme ça. Vous voyez. Donc elle sera, Marguerite Marie béatifiée le 18 septembre 1864, et puis canonisée le 13 mai 1920. Mais sa fête, elle est fixée aujourd'hui le 16 octobre. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons nous mettre ensemble, voilà, sous le regard du Seigneur, hein, et puis demander à Marguerite Marie de nous accompagner durant ces fêtes pour qu'on puisse aussi accueillir nous-mêmes, hein, en fait, le message du cœur de Jésus tel qu'elle nous l'a laissé aussi souvent par des citations, des textes, hein, différents qu'on va entendre maintenant. Je vous propose de finir par un petit refrain.